Projetons de l'amour qu'il a pour chacun de nous, puisque dans son amour, il a pensé à nous. Dans son amour, il a décidé un jour de nous visiter dans notre misère spirituelle et morale, nous visiter dans notre malédiction, nous visiter dans notre méchanceté. C'est à la fois avec beaucoup de joie, mais aussi de grande reconnaissance envers toi, que nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour te remercier pour ce moment merveilleux que nous venons de prendre en ta présence, mais aussi te remercier, ô Dieu, d'être venu un jour, d'être entré dans l'espace et dans le temps et d'avoir foulé le sol de cette terre sur laquelle tu as voulu l'homme. Car cette terre, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui as placé l'homme, c'est toi qui lui as confié cette domination, ce pouvoir, Seigneur, de dominer sur cette terre. Mais hélas, l'homme, nos premiers parents ont cédé aux sollicitations, à la ruse, à la manipulation, au mensonge, à la tromperie du diable. Et depuis, le monde est sous la malédiction. Depuis, ce monde est sous l'influence morbide, funeste, diabolique, malfaisante de Satan. Mais tu n'as pas laissé, Seigneur, les ténèbres continuer à régner éternellement sur cette terre. Tu n'as pas laissé l'homme continuellement dans cet état d'esclavage et d'asservissement, dans cet état d'animalisation, de vampirisation de la part du diable. Un jour, tu as décidé toi-même de venir sur cette terre en naissant comme tout homme, en revêtant un corps semblable au nôtre et en connaissant toute la condition humaine, sans toutefois te compromettre sous l'influence du péché. Et ce matin, nous sommes là à l'occasion de cette célébration dominicale pour te dire merci, merci pour Noël. Seigneur, Noël, une bonne nouvelle, Noël, nouvelle de joie. Noël, Seigneur, un moment tout particulier, un Noël qui a apporté un bouleversement, un chamboulement dans tout l'univers. Car à partir, Seigneur, de ta venue sur cette terre, eh bien, tout a changé. Ta venue sur cette terre reste et demeure le plus grand événement. Il est vrai que l'homme, Seigneur, grâce à l'intelligence dont tu l'as doté, a eu à faire des progrès formidables, des progrès extraordinaires. Cette intelligence lui a permis un jour de fouler le sol de notre satellite qu'est la Lune. Et ça a été un grand événement qui a bouleversé l'humanité. Mais c'est peu de choses par rapport à ces grands événements où toi, le Créateur, Seigneur, tu es venu fouler le sol terrestre. Quelle grâce, quel privilège. Alors à cette occasion, parle-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre véritablement le sens de Noël. Aide-nous, ô Dieu, à réaliser sa véritable substance. Parle, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est donc un culte un peu spécial. Vous avez vu que nous avons plus chanté, nous avons plus exprimé notre reconnaissance envers le Seigneur pour avoir choisi un jour, de manière tout à fait délibérée, d'avoir choisi un jour de venir nous visiter sur cette terre, plongée dans les ténèbres à cause du péché, hélas, sur cette terre corrompue, cette terre qui est devenue, hélas, un lieu où les puissances démoniaques, les esprits impurs et toutes ces autorités de l'abîme se livrent à l'œuvre la plus terrible qui soit, à savoir la destruction de la race humaine. Depuis, mes amis, l'ennemi règne à mettre sur cette terre. Depuis, l'homme est comme enfermé dans une bulle, dans une sorte de tour d'ivoire, subissant les affres de la malédiction. Il est enfermé, il est enchaîné, il est dans une cage semblable à un oiseau, enfermé dans une cage privé de toute forme de liberté. Mais un jour, Un jour, il est venu. Alléluia. C'est parce qu'il est venu que ce matin, nous pouvons le célébrer de tout notre cœur. C'est parce qu'il est né, comme vous et moi, que ce matin, nous sommes là pour proclamer qu'il est véritablement le sauveur de l'humanité, le Dieu fait chair, le Dieu qui nous a visités dans notre misère, Noël. Pour rester dans le thème de cette période de Noël, je voudrais attirer notre attention sur le fait que Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité, alléluia. Dans un monde qui est de plus en plus marqué par un syncrétisme mortifère, par un œcuménisme de très mauvais goût, dans un monde où règne la confusion, dans un monde où l'intégrisme religieux ne cesse de monter, dans un monde où il y a toutes sortes de nébuleuses philosophiques et autres, entraînant beaucoup, beaucoup de dégâts parmi les hommes, dans ce monde, il est plus que temps que nous rappelions à chacun de nous, que nous rappelions au monde qu'il y a un seul sauveur, le seul qui est venu sur cette terre, qui a payé le prix de notre salut. Celui-là s'appelle Yeshua. Celui-là s'appelle Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Roi des Rois, Jésus le Seigneur des Seigneurs, Jésus le Tout-Puissant, alléluia. Nous allons lire très rapidement dans le premier livre du Nouveau Testament, à savoir l'Évangile de Matthieu, Évangile de Matthieu, à partir, chapitre 1er, évidemment, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23, j'allais vous proposer une deuxième lecture dans Luc chapitre 2, de 8 à 11, mais ça reprend quasiment la même pensée. Seulement ici, les anges annoncent la bonne nouvelle à ces quelques bergers qui passaient leur veille à garder leur bétail quelque part dans les montagnes, dans les environs de Jérusalem. Nous allons donc juste lire Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18. « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi un mari, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, ou littéralement ce qui a été engendré en elle, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe évidemment. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui s'est traduit Dieu avec nous. Et comme je vous l'avais dit, après sa naissance, eh bien, il y avait des bergers quelque part dans les montagnes environnantes de Jérusalem qui passaient leur nuit dans les champs à garder leurs troupeaux, et puis un ange va leur apparaître pour les rassurer, et parce qu'ils vont avoir peur, ils vont être frappés par la frayeur, mais l'ange va leur rassurer pour leur dire « Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Alléluia. Non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans cette période que nous appelons période de Noël, selon le calendrier qui nous régit, à savoir le calendrier grégorien, et la date qui avait été retenue depuis C'est le 25 décembre, comme j'ai déjà eu à le souligner à plus d'une fois, ce n'est pas tant la date qui est importante, ce n'est pas tant le jour ou le mois, mais c'est l'événement lui-même. Et peu importe la période de l'année où on le célèbre. Alléluia. Pour nous qui dépendons du calendrier grégorien, période, la fête de la nativité, de la naissance du Seigneur, donc Noël, c'est vers la fin de cette année, mais pour les orthodoxes, c'est l'année prochaine, au mois de janvier. Donc vous voyez, d'une religion à l'autre, enfin, au sein du christianisme, évidemment, ça change. Donc ce n'est pas tant, parce qu'on a vu des gens passer tout leur temps pour essayer de comprendre et réfuter cette date. Nous sommes tout à fait d'accord que le Seigneur n'est pas né en période hivernale. Ce n'était pas en hiver qu'il est né, autrement, les bergers n'auraient pas passé toute cette nuit en hiver dehors sous le froid. Voyez-vous? Donc, peu importe, c'est l'événement lui-même, voyez-vous, qui est important. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et un peu partout, durant cette période, un peu partout, à travers le monde, eh bien, de gens qui se réclament du Christ se retrouvent pour le célébrer de mille et une façons. Et chacun donne un certain sens, chacun donne une certaine signification Noël. C'est ainsi que pour les uns, Noël est synonyme des cadeaux. C'est donc une période où on échange des cadeaux. Noël est synonyme des réunions de famille. Généralement, nous qui sommes marqués par la culture occidentale, eh bien, le 24, le jour qui précède Noël, c'est une soirée que les gens mettent à part pour se retrouver en famille. Pour certains, Noël, c'est donc signifie ou synonyme de voyage. Il faut aller chercher le soleil quelque part à Dubaï ou je ne sais où. Pour les autres, Noël est bien synonyme de solitude parce qu'ils se retrouvent seuls, leur mari, leur époux, leur épouse étant partis dans la gloire, étant décédé, alors ils se retrouvent durant cette période seuls et ça évoque des souvenirs douloureux ou voire même d'amertume. Dans certains pays, comme en Occident, durant cette période, eh bien, les villes changent d'aspect. On assiste à toutes sortes de décorations, les villes, les rues, les avenues, même les maisons sont habillées de lumière. Voyez-vous, on trouve les sapins, on trouve des guirlandes. Bref, c'est une période de réjouissance. Pour les commerçants, ils se frottent les mains. Voilà, ils se disent, voilà, c'est une période où il faut faire des bénéfices substantiels, où il faut vendre le plus. Avant même que la date, cette période arrive, ils réfléchissent déjà comment ils vont vendre plus et faire plus de bénéfices. Malheureusement, nous voyons que Noël a été vidé de son sens, a été vidé de sa substance. Mais je voudrais que nous revenions au vrai sens de Noël, qui est donc une célébration de cet événement qui reste singulier dans l'histoire de l'humanité. Cet événement qui a bouleversé l'humanité et qui a laissé des traces indélébiles. Noël est donc, et avant tout, une fête de la naissance de Jésus-Christ, la naissance du Messie. Noël, c'est donc un moment pour tous ceux qui se réclament du Christ de se retrouver autour de lui pour lui exprimer leur reconnaissance de ce qu'un jour il est venu ici-bas, lui, le Fils de Dieu, lui, la parole qui existe de toute éternité et par laquelle tout est venu à la création, à l'existence. Oui, célébrer ces moments en disant merci à Dieu, car celui qui est venu n'est pas venu par hasard ou comme par aventure. Il n'est pas venu non plus en villégiature, en touriste. Il n'est pas venu faire un petit coucou à l'humanité pour lui dire « Oh, je suis là, c'est moi Jésus de Nazareth, etc. » Pas du tout, mes amis. Il est venu dans un but. Alléluia. Et le but pour lequel il est venu est intimement associé à cette fête, à ces moments qu'est Noël. Gloire à Dieu. Revenons à notre passage. Essayons d'en apprendre davantage sur la venue de Jésus-Christ, son entrée dans l'histoire de l'humanité, sa naissance virginale, sa conception par la vertu du Saint-Esprit et sa mission. Car rien que le nom, nous voyons déjà le but pour lequel il est venu. Nous voyons déjà sa raison de sa venue sur cette terre. Alléluia. Et gloire à Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour le Fils de Dieu est venu sur cette terre. Si le monde est ce qu'il est, mes amis, si aujourd'hui, n'importe qui peut défier l'enfer, n'importe qui peut se tenir devant le diable et lui dire « Éloigne-toi de moi », c'est parce qu'un jour, le Fils de Dieu est descendu sur cette terre. En revêtant un corps semblable au nôtre, en montant volontairement sur la croix et en prenant nos péchés sur lui, eh bien, mes amis, il a payé le prix de notre rachat. Et depuis, mes amis, eh bien, tout a absolument changé, radicalement changé. Aujourd'hui, il est possible pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi qui me suis et qui n'es pas encore converti, il est possible aujourd'hui de sortir de ton état de malédiction, de sortir de ce trou noir d'asservissement, de servitude, d'esclavage, dans lequel le diable te maintient. Aujourd'hui, tout est possible parce que Jésus est venu un jour sur cette terre. Alléluia. Nous pouvons être débarrassés de nos casseroles, quelles qu'elles soient. Nous pouvons être débarrassés de notre héritage du passé. Nous pouvons être débarrassés de la culpabilité qui ronge l'humanité. Oui, nous pouvons nous débarrasser du péché et commencer une nouvelle vie avec lui. Alléluia. Et gloire à Dieu. Commençons par le commencement. Il est venu sur cette terre pour chercher l'homme perdu, l'homme en proie, mes amis, à la destruction, l'homme esclave du péché, l'homme sous la malédiction, l'homme sous l'influence malfaisante, macabre, morbide, funeste, méphistophélique du diable, l'homme complètement obnubilé, ne sachant où aller, n'attendant que de mourir pour aller endurer inéluctablement la colère et le jugement de Dieu. Commençons par le commencement. Nous l'avons lu. Une jeune fille du nom de Marie, fiancée à un certain Joseph, tous appartenant à la race d'Israël, à la tribu des Judas, des Juifs. Cette jeune fille, avant qu'elle ait le temps de pouvoir enfin aller rejoindre son mari, avant que le mariage soit célébré, dans le mariage, dans la couture, dans la culture ou la tradition juive, il y a plusieurs étapes qui conduisaient au mariage entre un homme et une femme. Voyez-vous, étape de fiançailles, etc. Avant cela, mes amis, nous l'avons lu, cette jeune fille s'est retrouvée enceinte par l'action puissante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et voilà comment le Fils de Dieu a été conçu dans le sein maternel de Marie. Cette conception miraculeuse, cette naissance virginale de Jésus-Christ sont des événements, mes amis, qui dépassent la logique et les raisonnements humains. Alléluia. Ça dépasse, ça défie notre raison. Ça va au-delà, car nous savons qu'humainement parlant, il est impossible qu'une fille conçoive sans qu'elle ait eu des rapports avec un homme, ou alors sans qu'elle ait reçu la sémence de l'homme. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. C'est donc un miracle extraordinaire, quelque chose qui défie notre intelligence, quelque chose qui nous met en porte-à-faux avec notre puissance cérébrale. Cette vérité sur la conception miraculeuse, sur la naissance virginale du Christ, mes amis, est d'une importance capitale et vitale pour notre foi, pour le salut de l'humanité. Ce n'était pas simplement une occasion pour mettre Marie quelque part sur un piédestal dans l'histoire de l'humanité, sans en faire une idole, attention. Mais il était important que le Fils de Dieu, il est important que Dieu lui-même, pour sauver l'homme, l'homme sous le poids du péché, l'homme sous l'influence du diable, il est important que Dieu lui-même vienne en prenant un corps semblable à celui de l'homme. Et pour cela, eh bien, il fallait qu'il passe par le transit obligatoire, c'est-à-dire par un sein maternel. C'est donc une vérité, une doctrine d'une importance vitale, capitale. En effet, Jésus le Christ, Jésus le Messie, le Fils de Dieu, devait être exempt de tout péché pour pouvoir sauver l'homme pécheur. Il fallait que le Messie, qui était donc appelé à libérer l'humanité de la culpabilité, du péché et de ses conséquences terribles, soit lui-même un homme sans péché. Et pour cela, il fallait que sa conception, eh bien, bypasse les lois naturelles telles que Dieu les a établies lorsqu'il a créé l'homme et qu'il lui a suscité une femme, et lorsqu'il leur a dit, eh bien, multipliez-vous. Né d'une femme, Jésus était vraiment homme. Il y a eu toutes sortes de doctrines qui se sont développées dans l'histoire de l'humanité que je pourrais résumer en deux tendances extrêmes. Il y en a qui ont vu dans la naissance du Christ, qui ont vu dans l'humanité du Christ, simplement un homme, sans aucune prétention divine. Il était simplement un homme, un prophète, un chef religieux. D'autres sont tombés dans l'autre extrême, où il était Dieu, et on gonflait tellement la divinité du Christ qu'elle a fini par absorber son humanité. C'est ça ce qu'on appelle une hérésie. Une hérésie, c'est quoi? C'est une vérité, mais qu'on gonfle tellement qu'elle arrive à absorber d'autres vérités. Voyez-vous? Alors on trouve encore aujourd'hui cette tendance. C'est ce qui a amené certains, une doctrine, le docétisme, c'est-à-dire que Jésus, qui est mort à la croix, ce n'était pas un homme, c'était une apparence. Voyez-vous? Comme une sorte de, je ne sais pas, d'ectoplasme, une apparence qui serait mort là, mais pas Jésus. Non. Il était à la fois homme, pleinement homme, et à la fois pleinement Dieu. Oh, alléluia. Il était donc important que le Messie, celui qui avait été promis déjà dans le jardin d'Éden, après que l'homme et la femme aient péché, il était donc important que ce Messie-là, eh bien, le sauveur de l'humanité, puisse être saint, puisse être parfait, sans aucun contact avec le péché, d'une manière ou d'une autre. Il fallait qu'il soit au-dessus de la nature pécheresse, qu'il n'y ait en lui aucune trace du péché, pour enfin pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Donc, Christ est venu, et il a pris la forme humaine. Et c'est de cette manière qu'il a pu sauver l'humanité en mourant à la croix, en posant sa vie sur l'autel du sacrifice. Et gloire au Seigneur. Le péché, depuis Adam et Ève, nous est transmis de génération en génération. Nous naissons tous pécheurs. Le péché, mes amis, est inscrit au cœur même de notre ADN. Nous nous transmettons, hélas, cet état terrible que la Bible appelle le péché. Et puisque nous naissons pécheurs, nous pouvons alors pécher. Les péchés que nous commettons ne font pas de nous pécheurs, non. Les péchés que nous commettons manifestent l'état dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des mangues qu'un arbre devient manguier, mais l'arbre est mangué dans sa nature, dans son essence, dans sa substance. Alléluia. Qu'il y ait des mangues ou qu'il n'y ait pas de mangues, cet arbre est mangué. Et nous péchons parce que nous sommes dans un état de péché. Tous sont pécheurs. Telle est la déclaration, le verdict de la parole de Dieu. Tous, absolument tous. Personne ne peut échapper à cette réalité. Tous ceux qui descendent d'Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité tout entière, est pécheur. Tous ceux-là sont pécheurs. Et pour être sauvés, il fallait alors un homme parfait. Un homme qui soit parfait, alors son œuvre allait être aussi parfaite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le prophète l'avait annoncé bien avant, le prophète Ésaïe, quelques siècles auparavant. C'est la citation que nous trouvons là, au verset 23, où il est dit, « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui s'est traduit « Dieu avec nous ». Alléluia. Ésaïe l'a annoncé des siècles auparavant. J'aime beaucoup ce prophète, car son livre à lui seul, comme quelqu'un l'a dit, est une Bible en miniature. Je vous encourage à lire ce livre. C'est une Bible en miniature. Notre Bible est constituée de 66 livres, n'est-ce pas? Eh bien, Ésaïe a combien de chapitres? 66. Les 39 premiers chapitres d'Ésaïe nous parlent du jugement, nous parlent de l'errance des nations, de leur culpabilité, nous parlent de Judas, du peuple de Dieu lui-même qui s'est rendu coupable aux yeux de Dieu, nous parlent du jugement de Dieu sur les nations environnantes de Judas, sur Judas lui-même, 39. Et après, les 27 derniers chapitres qui correspondent au nombre de livres du Nouveau Testament nous parlent, mes amis, de la bonne nouvelle, du Messie qui va venir, du Messie qui va donner sa vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Du Messie qui va payer le prix, lui le serviteur de l'Éternel. Eh bien, bien avant, Ésaïe avait reçu cette révélation, cette vision. Il avait vu, mes amis, dans un temps lointain, la venue du serviteur de l'Éternel, qui est un autre titre du Messie. Il avait vu tout ça bien avant. Mais il ne pouvait pas s'imaginer l'année, la période, le siècle qui allait voir l'accomplissement de toutes ces prophéties. Et ce jour-là, eh bien, le Messie va naître à Bethléem. Et même son lieu de naissance avait été prédit. Car la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute la Bible a été écrite pour nous révéler Jésus. Oh, alléluia. Sans Jésus, la Bible n'a aucun sens. Sans Jésus, mes amis, nous serions encore morts dans nos péchés. C'est Jésus qui est le pivot, qui est le cœur, qui est le centre de la parole de Dieu. Alléluia. Bien avant Ésaïe, Dieu lui-même avait proclamé cette promesse, Genèse 3:15, après la chute, après que le péché, hélas, soit devenu une réalité terrible, après qu'il fasse partie de la réalité de l'existence humaine, Dieu lui-même a proclamé cette parole. La postérité de la femme t'écrasera, toi, le diable, la tête, mais tu lui blesseras le talon. Il était donc important que le serpent le blesse, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oh, alléluia. Ce n'est pas que le serpent, à un moment, dans ses face à face, à un moment, oh, paf! Non. Il fallait que le Messie meure. Il fallait que son sang coule Voilà pourquoi le serpent devait le blesser. Donc déjà, au jardin d'Éden, nous avons la promesse du Messie. Le Messie qui devait venir pour sauver l'humanité. Mes amis, pour revenir à notre texte de Matthieu, nous avons là l'incarnation de Dieu qui est manifestée. Dieu fait homme. Comment est-ce possible? Voyez-vous, eh oui, ce sont des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Ce sont des choses que nous ne pouvons comprendre que grâce au Saint-Esprit, par révélation, oh alléluia. C'est le fait prodigieux de l'incarnation. Dieu qui devient un être humain en la personne de Jésus-Christ. Pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu, oh alléluia. L'incarnation. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Jean écrit dans son préambule, dans le préambule à son évangile. Lorsqu'il nous parle de choses qui étaient avant la création. Au chapitre 1er, vous connaissez bien cette parole merveilleuse, cette révélation merveilleuse concernant le Seigneur, où il est dit, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Oh, alléluia. Et le verset 14 de poursuivre, et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, oh alléluia. Il est venu sur cette terre, cette parole qui existe avant toute chose, cette parole par laquelle toutes choses sont venues à l'existence, le Verbe de Dieu. Un jour, a pris la forme d'un homme, en la personne de Jésus-Christ, alléluia. La parole faite chair. Mes amis, Jésus est à la fois parfaitement homme, était à la fois parfaitement homme et homme parfait. Voyez-vous? Conçu par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Donc, comme je le disais, pleinement homme, et pleinement Dieu, oh alléluia. Puisque Jésus a vécu comme un homme parfait, mais dans un contexte marqué par le péché, mais dans un monde qui était sous l'influence du diable, il va être tenté comme n'importe quel homme, voyez-vous. Il va être sérieusement secoué. Le diable va tout faire pour l'affronter. Pensez à sa tentation que nous trouvons dans Luc 4, les évangiles en parlent. Il est venu les tenter, parce qu'il avait pris la forme humaine, oh alléluia. Mais Jésus va donc marcher sur le diable, va écraser le diable, il va résister au péché. Il va vivre comme un homme, sans commettre de péché. Puisqu'il a vécu comme un homme, il peut alors nous comprendre, mes amis, dans nos faiblesses. Il peut nous comprendre, mes amis, dans nos luttes, car comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, versets 15 à 16, il dit ceci très rapidement, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous tous, à tous égards, sans commettre de péché. » Voilà la bonne nouvelle. Sans commettre de péché. Il a été tenté, le diable a tout fait. Il a sollicité sur tous les plans. Il lui a fait miroiter les royaumes de ce monde. Il lui a promis la domination, la puissance et tout cela, mais n'est jamais arrivé. Alors, il a été tenté comme nous tous, comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Il a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Voilà pourquoi il peut nous venir en aide. Alléluia. Il sait ce que ça représente, que cette puissance funeste que le péché. Mais il a résisté. Et en tant que Dieu, il a donc le pouvoir et l'autorité de nous pardonner, de nous délivrer de notre culpabilité, de nous délivrer du péché et de la puissance du diable. Donc à la fois homme, à la fois Dieu. Comment comprendre cela? C'est impossible. Parce que nous vivons dans un univers qui est régi par des lois. Voyez-vous? Mais Jésus reste un mystère dans l'histoire de l'humanité. Comment parler d'un homme qui est pleinement homme, mais qui en même temps est pleinement Dieu? Eh oui, devant ce mystère, nous nous inclinons. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et enfin, Jésus est venu en tant que sauveur. Je l'ai souligné. Il n'est pas venu passer quelques vacances ici. Les gens apprécient beaucoup le soleil méditerranéen. Les pays au bord de la Méditerranée, eh bien, sont des pays qui sont constamment visités par des touristes. Si vous faites tout le tour du bassin méditerranéen, vous verrez que ces pays ont des plages magnifiques, splendides, extraordinaires. Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu en touriste, pas du tout. Il est venu en tant que sauveur. Voyez-vous? Et le verset, l'ange du Seigneur le souligne très bien. Elle enfantera un fils et on donnera le nom, à qui on donnera le nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple du péché. Alléluia. Le salut se trouve dans une personne et non pas dans une religion. Et l'année 2020 est appelée à être une année où nous allons annoncer cette parole partout. Alléluia. Que les gens arrêtent d'avoir leur regard posé sur un homme, sur un prophète, sur un ange, sur un archange. Il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera l'humanité du péché. Jésus. Son nom même, mes amis, est dérivé d'un mot hébreu qui signifie sauver, délivrer. Donc Yeshua veut dire Adonai est salut ou Adonai sauve. Yahweh est salut, Yahweh sauve. Alléluia. Le salut est en Christ, mes amis. Prêchons ce message. L'Éternel est salut. Rien que le nom, nous avons déjà la nature de sa vocation. Nous voyons la raison d'être de sa venue sur terre. Nous voyons la substance de Noël. Il est le Sauveur. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. Parce que nous ne pouvions pas, et nous ne pouvons pas, nous sauver nous-mêmes du péché. Puisque le péché est intimement attaché à nous. Il est au cœur, au centre de notre ADN. Comment nous libérer de cette pesanteur? Par nous-mêmes, impossible. Aucun homme, même pas un ange. C'est Dieu seul qui l'a fait. Et il l'a fait en Jésus-Christ, alléluia. Et en Jésus, Dieu s'est approché de l'humanité. En Jésus, Dieu nous tend, nous lance une bouée de sauvetage. Tout autour de nous, c'est la perdition. Tout autour de nous, mes amis, tout va en vrille, tout va à la dérive. Mes amis, tout autour de nous, eh bien, les choses vont de mal en pire. L'humanité s'égare, étant séduite par le diable. Mais au cœur de cette humanité qui se perd, qui se corrompt, il y a une réalité vivante, l'Église de Jésus-Christ, dont il est la tête, dont il est le corps, et dont il est le centre, allais-je dire, Jésus de Nazareth, alléluia. Donc, Jésus est venu dans le but de nous sauver. Alors Noël, ce n'est pas simplement dire à Dieu, « Oh, je te bénis d'être venu sur cette terre. » Noël, c'est aussi et surtout ouvrir son cœur à Jésus, afin qu'il vienne toucher le sol de notre cœur, comme il avait touché le sol de cette terre. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de délivrance. En dehors de lui, mes amis, c'est la mort assurée. C'est l'enfer assuré. On meurt sans Jésus Eh bien, on va tout droit dans le séjour des morts, en proie d'atroces souffrances. Alors prêchez cette parole, annonçons-le, annonçons-la. Jésus est venu dans ce monde, et sa venue reste et demeure, mes amis, le plus grand espoir jamais donné à l'humanité. Il est la lumière du monde qui lui. Et Noël, c'est un appel à nous approcher de cette lumière, afin que les rayons qui émanent de cette lumière puissent nous communiquer la vie, puissent détruire toute ténèbre en nous. Noël, c'est Dieu qui offre son salut, c'est Dieu qui offre sa vie. Noël, c'est aussi un appel à recevoir cette vie, à recevoir le pardon qu'il nous donne. Oui, si tu n'as pas encore rencontré ce Jésus-là, eh bien, observez, cette période de Noël n'a aucun sens. Ça va peut-être te faire du bien, tu vas recevoir un cadeau de la part de tel ou tel autre membre de la famille, tu vas faire un voyage, tu vas aller t'amuser à gauche à droite, tu vas décorer ta maison avec toutes sortes de choses, mais sans plus. Tout cela n'aura servi à rien. Mais Noël devient une réalité pour nous, devient vraiment une fête qui a un sens lorsque Jésus vient dans nos vies. Alors n'hésite pas à le recevoir. Et si tu l'as déjà reçu, eh bien considère ce culte d'aujourd'hui, ces moments qui sont là devant nous, comme une occasion de dire merci à Dieu de ce qu'un jour il nous a visités. Il est entré dans l'espace et dans le temps, il est venu jusqu'à nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je ne peux que terminer par vous souhaiter une joyeuse